sur FM+, 91 FM à Montpellier pour l'émission La Réopage. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Monique Serrault-Chaibi.
Bonjour.
Bonjour Monique, pour l'association Coup de Soleil, mais peut-être pas que, on va voir. Et puis Jean Daumont
oui.
qui revient, qui
bonjour.
Vient. Voilà, vous me disiez tout à l'heure, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de radio.
Ah oui, ça, il y a des très très longtemps.
C'est
très,
vrai
très
non, longtemps. Mais vous aviez fait une parole du jour il n'y a pas longtemps.
Parole du jour, c'est vrai.
Ah voilà, j'en avais déjà oublié.
Oui.
Alors, nous sommes là dans ce studio de FM+, pour parler de deux auteurs, deux livres. D'une part, Yamen Manaï pour Lama Ardent et Camille Hatimi pour le titre La Houlette. Ces deux titres publiés aux éditions Elizade. Alors, Monique Serrault-Chaibi, ce n'est pas un pur hasard d'avoir ces deux auteurs ici.
Mais non, parce que ça vient de notre... depuis 2006, Coup de Soleil a créé en région le coup de cœur. C'est-à-dire que nous lisons un certain nombre de romans issus du Maghreb et nous en proposons 5 au public, aux lecteurs.
Donc le jury, c'est le public.
Voilà, c'est le public. Et ensuite, c'est eux qui choisissent le lauréat que nous accueillons dans deux endroits en général, une fois à Montpellier et une autre fois dans les environs.
Yamen Manaï, il était là il n'y a pas très longtemps.
Lui, si, il y a un petit... Il aurait dû venir, mais il y a eu le problème d'intempérie, donc il n'a pas pu venir. Mais il était venu pour nous... il était venu en 2013 pour la Comédie du Livre et il a gagné le prix coup de cœur lycéen pour son premier roman, La Marche de l'Incertitude. Donc là, il vient d'en sortir un troisième qui a eu le prix des 5 continents. Et Camille Hatimi, ben c'est Jean qui va nous en parler un peu plus longtemps. C'est celui qui a gagné notre coup de cœur, le dernier coup de cœur.
C'est vrai, dans un premier temps, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ces éditions Elizade. Vous les connaissez,
alors,
Monique?
Ce sont des éditions tunisiennes, mais qui sont très actives. Et une des rares éditions du Maghreb dont on peut avoir facilement les livres ici. Parce qu'il y a des auteurs qui sont excellents, qu'on ne peut malheureusement pas choisir dans notre... coup de cœur parce que il n'est pas pratique de se procurer les livres. Elizade est une maison d'édition qui est très très active.
Bien distribuée.
Bien distribuée. On a des auteurs comme Maïs Abbé, Cécile Oumani, donc Ali Becher, les deux dont on vient de parler. C'est une maison d'édition qui est très...
D'excellents livres, bien présenté,
en général,
très agréable à lire.
Tout à fait.
Alors, Jean Daumont, vous avez donc aimé La Houlette de Camille Hatimi.
Oui, j'en suis sorti difficilement, tellement
c'est
il
vrai.
Est... Et je dois dire que je ne me sens pas capable de vous en parler dans les détails. Mais par contre, j'ai été très intéressé de faire la connaissance de l'auteur.
Alors, qui est Camille Hatimi?
Camille Hatimi, que nous avons eu d'ailleurs le plaisir de recevoir à Coup de Soleil à Montpellier. C'est un monsieur tout à fait sympathique que nous avons bien apprécié.
Tout à fait.
Et alors, la première chose que j'aimerais dire au sujet de cet auteur, c'est qu'il est, c'est son premier livre, alors qu'il est né en 1960. Autrement dit,
il n'a pas 20 ans.
Non, c'est ça. Et c'est très intéressant de prendre conscience de ce fait que il a. J'ai l'impression énormément de travailler ce roman.
Et je donc ne c'est sais un pas... roman, est-ce qu'il a écrit quand même des nouvelles avant ou est-ce qu'il était dans un domaine complètement différent?
Il était dans le domaine de la culture. Il a travaillé, oui, il a travaillé en faculté de lettres, je crois. Elle travaillait beaucoup sur la culture. Mais en fait, non, c'est vraiment son premier bouquin.
Son premier livre, La Houlette.
La Houlette, alors c'est un peu bizarre comme titre, mais enfin ce qui est intéressant c'est quand même ce personnage qui écrit un premier roman à cet âge, et ça se transmet très bien d'ailleurs dans sa manière d'écrire, qui est une belle, très très belle écriture. Moi, j'ai été très impressionné par la qualité de son écriture, la diversité qu'il a de nous présenter ses personnages qu'il aime toujours beaucoup, dont il présente toujours des caractères avec une psychologie tout à fait étonnante. Et vraiment, c'est intéressant de voir ce monsieur de cet âge nous offrir une telle profusion de réflexions et de... Alors, je ne sais pas si je dois me lancer dans... Précisément, il faut quand même que je parle un peu du roman.
Alors, du roman. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vrai que vous avez évoqué son écriture.
Oui.
Alors, peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être en lire un ou deux passages pour entendre son écriture? Est-ce que vous la qualifieriez de classique, cette écriture? À vous entendre, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que c'est une écriture classique, bien dans un français...
Ah, c'est du très bon français.
Très bon français.
Très, très bon français. Très, très, très précis, avec beaucoup de... beaucoup de décisions,
de détails.
C'est vraiment intéressant. Mmh. Mais oui, on peut lire. Ça permettra...
Monique, alors, je vois que vous avez ouvert le livre. Hein.
Comme j'ai des yeux un peu plus jeunes que ceux de Jean, il m'a demandé de lire à sa place.
Bon. Oui, merci.
Donc, c'est lui qui a fait le choix.
Alors là, on est à peu près au milieu du livre.
Alors, mais pourquoi? Comment savoir? Surtout, comment Dragan avait-il pu se construire, grandir, devenir homme avec cette sorte de culpabilité, cette sourde douleur au fond de l'âme propre à ceux qui survivent aux disparitions inexpliquées? Et avec un tel passé, que fichait-il encore à la houlette casablancaise? Je vous prie de m'excuser. Comment pouvait-il accepter de gâcher son talent dans ce journal-là, le plus conservateur, le plus officiel, le moins indépendant de tous, celui où n'est exigé ni talent ni volonté d'élévation de la part de ses gazetiers? Cet autre, où l'on a érigé la servilité en culture d'entreprise, en système rationalisé, optimisé, au service d'une propagande nationaliste des plus démocratiquement bétifiantes qui puisse s'imaginer. Pourquoi s'infligeait-il de telles humiliations, Dragan? Ses parents avaient milité à gauche. Révolutionnaires, ils étaient. Il est devenu, lui, turiféraire zélé du Marzen. Dingue.
Marzen.
Le Marzen, oui. Totalement,
le Maroc.
Voilà, le Maroc. Totalement absurde qu'il ait voulu prendre ses distances vis-à-vis des aspirations de ses parents, qu'il ait refusé d'endosser leurs erreurs, d'adhérer à un matérialisme historique pur et dur, pouvait s'expliquer en même temps et même se comprendre d'un certain point de vue. Mais de là à s'enticher du plus réactionnaire, du plus étriqué, du plus borné des strapontins de la société, on était là face à un parcours de vie pour le moins extravagant.
Alors Monique, là vous avez pris le livre pratiquement au milieu, hein, c'était ouvert pratiquement...
Page 159.
Alors déjà il y a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés, qu'on ignore, nous auditeurs, auditrices,
énormément,
qui entendons ce texte pour la première fois.
Ah oui, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Ah oui, c'est très difficile justement à vous parler, parce que cet auteur, j'ai l'impression qu'il a voulu dire tout ce qu'il avait à dire
à plus
de 50 ans. Quoi, hein.
Alors la houlette déjà. Qu'est-ce que c'est alors, que la houlette?
La houlette, alors ça, c'est un petit journal de Casablanca où il travaille, lui, donc, ce dragon. Alors, ce qui est important, c'est le nom de ce dragon. Parce qu'en définitive, bon, c'est un journaliste. Et le début du roman, c'est il découvre tout d'un coup qu'il est incapable d'écrire. Mais carrément d'écrire, alors qu'il doit rédiger un texte précisément pour ce journal qui donc s'appelle très curieusement La Houlette.
La Houlette. Alors ça se passe à peu près en quelle période?
C'est récent.
C'est récent, dans les dernières années.
Ah oui, c'est tout à fait récent.
Qui se plongerait dans les années 60.
Dans le Maroc actuel.
Actuel, hein. Oui.
Ah, tout à fait. Et donc, il découvre qu'il est incapable d'écrire. Mais on comprend très rapidement qu'en fait c'est pas sa plume ni sa main qui hésite, c'est son nom. Il est porteur d'un nom qui en fait est pas le sien. Et qui s'appelle donc il faut s'épeler, c'est Dragan. D-R-A-G-A-N. Dragan. Et en fait ce prénom n'est pas du tout marocain. Alors que, en principe, donc, ce journaliste de Casablanca est un bon marocain. Et en fait, ce dragon est un prénom et n'est pas marocain. Et c'est là qu'on découvre qu'en définitive, ce dragon est né d'un père marocain, mais d'une maman serbe.
Et donc, ça lui pose un problème à lui en tant qu'homme?
C'est le problème. Oui.
Ou par rapport à son employeur, par rapport à ses lecteurs, où est-ce que ça... Où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça coince, cette identité-là?
Et ça coince qu'en définitive, il est né, en fait, il est né en Serbie. Il est né en Serbie, donc d'un père marocain et d'une maman serbe. Et puis ensuite, il va vivre sa vie du côté de Casablanca, mais il est quand même marqué définitivement. C'est très très important. Et en fait, il le dit d'une manière très forte. Est-ce que je me sens davantage marocain ou davantage serbe?
Est-ce que pour autant c'est un livre sur cette recherche d'identité ou est-ce que
c'est
central?
C'est tout à fait central. Mais l'intérêt, c'est l'auteur, justement, qui écrit ce livre et qui lui-même est de père marocain et de maman allemande.
Donc, vous parlez là de Kamil Hatimi.
De Kamil Hatimi. Alors, on établit tout de suite quand même un lien entre la biographie de l'auteur et le récit qu'il nous donne. Et c'est très intéressant, c'est que à partir de cette constatation, Hatimi va nous faire découvrir tout un plan de l'histoire de l'Europe, avec justement la tension entre le Maroc et la Serbie, qui d'ailleurs va devenir la Yougoslavie après le communisme, l'installation du communisme, donc à la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, alors, il y a une partie, alors que le début du livre est assez drôle, cette manière dont ce pauvre garçon s'aperçoit qu'il ne peut pas écrire, et c'est raconté d'une manière extrêmement humoristique, détendue, et c'est accompagné d'un certain nombre, d'ailleurs, d'autres paragraphes sur la partie de ce roman où l'on voit les différents aspects de la société marocaine, donc de Casablanca, qui parle français avec des mots arabes, avec bien entendu, mais qui parle un très très bon français qui est très proche finalement du nôtre. Mais voilà, donc
Alors, au-delà finalement de cette de cette problématique, de ce point central sur cette recherche d'identité, est-ce qu'il y a une intrigue dans ce roman, ou est-ce que c'est simplement le déroulé d'une vie de journaliste?
C'est le déroulé d'une vie avec le fait donc que ce dragon est donc à la fois marocain et d'origine serbe. Et l'intérêt aussi, c'est que dans cette histoire, qui donc nous permet de découvrir ce phénomène de l'explosion du communisme, et donc qui va, et ça c'est très bien décrit présenté d'une manière très très
historiquement très détaillée.
Parce que Hatimi il travaille avec un désir de faire bien comprendre ce qui se passe, avec c'est vraiment le travail, la manière dont il nous parle de cette expansion du communisme dans cette Europe. Il va nous faire découvrir, bien entendu, que, et c'est ce que nous savons, c'est que les pays du sud méditerranéen, et en particulier le Maghreb, va être bien entendu influencé par cette explosion du communisme, et avec les réticences que l'on connaît, bien sûr, de ces pays qui sont, eux, sous domination colonialiste, et qui vont bien être intéressés par cette situation, mais en même temps vont résister très fortement, bien entendu.
Donc c'est à la fois un roman qui...
Il y a un sujet supplémentaire.
Monique.
comme disait Jean tout à l'heure, quand il n'arrive plus à écrire, il y a une raison à cela. Il ne la connaît pas, on la sait vers la fin du livre, donc, et on ne peut pas la révéler, parce que sinon...
Et on ne peut pas la révéler.
Voilà, non. Mais il y a une explosion, oui. Il se souvient de quelque chose au moment où il y a un attentat, donc ça fait une double explosion, une explosion de souvenirs dans sa tête, et l'explosion due à l'attentat. Et donc c'est pour ça qu'il faut lire ce livre, pour savoir quelle est la raison de cette absence d'impossibilité d'écrire.
Mais il faut le lire jusqu'au bout, justement. Mmh. On risque d'être fatigué à certains moments dans la lecture. Mmh. Parce que c'est tellement documentaire, quelquefois. Les détails qu'il donne justement cette tension qu'il y a entre ces pays, donc...
Du Maghreb,
et puis la Yougoslavie et le monde communiste. Et ce qui est intéressant et dans le déroulement du récit, c'est que la maman serbe, qui est donc communiste de formation, va vraiment entrer en plein dans cette conception du monde du Parti communiste, alors que le Marocain, lui, il va rentrer chez lui et il va retrouver le marzen, hein, dont on parle,
le pouvoir,
c'est l'empire chérifien dirigé par Hassan II. Mm. Donc on est là vraiment dans deux mondes complètement séparés, et lui, il est au milieu, puisque Dragan, il est à la fois l'un et l'autre. Mm. Alors c'est ça un peu la tension. Mm.
À vous entendre, on a le sentiment aussi que c'est un roman qui parle de politique, d'engagement politique, ou de répercussions d'une vie politique. Non, je me trompe, Monique?
Il y a un peu de la politique dans presque tout.
La
politique où change l'arme. Qui n'ont rien à voir avec la politique.
Oui,
là, on est en train vraiment de voir...
Ce qui est intéressant, c'est que justement, Halimi a été passionné par cette recherche. Et par exemple... Il nous décrit avec beaucoup de détails. Moi, ça m'a appris énormément de choses. L'affaire Ben Barka, par exemple, hein. Ou donc.
Souci quand même de l'histoire et de l'organisation.
Et oui, et la résistance contre Hassan II par ces gens qui sont eux profondément communistes. Ben oui, et qui vont donc se révolter. Rejeter ce gouvernement. Et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que précisément la maman serbe, donc elle, lorsque le papa va rentrer au Maroc quelque temps après, il était de passage en tant qu'étudiant, il est rentré chez lui avec sa femme. Et avec son fils, donc le fameux Dragan. Mais la maman, elle, va être du côté des résistants contre l'empire chérifien, et au point qu'elle va elle-même disparaître, être enlevée au même titre, d'ailleurs, que Ben Barka. Bon, là, c'est une fiction, on va dire.
Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer en mettant en place cette fiction, justement? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire dans cet enlèvement de cette femme, à l'instar de Ben Barka? Il y a peut-être un message aussi de la part de Hatimi d'avoir inventé ça.
Oui, il décrit avec énormément de détails ce qu'on a appelé au Maroc les années de plomb. C'est très détaillé. Alors ça, on se perd même dans les détails tellement il en donne, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est très documentaire. Et là, on comprend qu'il y a cette tension entre le Maroc qui est resté donc bien traditionnel et puis la Serbie qui est devenue la Yougoslavie. Voilà, ça c'est tout à fait essentiel, mais ça demande, il faut lire toutes les informations autour de cet événement du couple. Des parents de Dragan, tout ce qui raconte finalement cette période. Et ça, c'est ça qui est très... Moi, ce que j'ai beaucoup appris...
C'est ce qui vous a vraiment intéressé, oui.
Ah oui, moi, j'ai beaucoup appris. Ouais. Mais quelquefois, on se perd dans les détails.
Hein. Bon, là, il faut les dépasser pour aller jusqu'au bout du livre.
Oui, il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce qu'il y a donc c'est tout ce que je raconte là. Mais ensuite, il y a un peu au-delà, après un attentat qui a eu lieu dans Casablanca, il y a un autre événement que Monique dit que nous ne le raconterons pas, hein,
non.
Qu'on ne racontera pas, mais
c'est
qui,
un suspense,
pas dévoiler la voilà.
qui vraiment
qui fait comprendre, qui éclaire tout ce qui était avant.
Et ce qui m'a plu, alors si on n'a pas trop le temps d'en dire plus longtemps, ce qui m'a plu moi beaucoup, c'est la façon dont ce Hatimi écrit son livre, donc dans le détail, avec beaucoup d'informations, mais aussi avec une sorte d'amour de ces personnages, moi qui m'a beaucoup impressionné. À tel point qu'en définitive, alors qu'il y a cet événement qu'on ne racontera pas, mais qui a été...
Décidément, on a envie de le connaître.
Ah oui, exactement. On a envie de le connaître.
Précipitez-vous pour l'acheter.
Et qui marque
Dragon. Pour aller en bibliothèque.
En plein dans son adolescence. Et ce qui est étonnant, eh bien, c'est qu'il s'en sort bien. L'auteur, mais aussi le dragon, finalement.
Puisqu'il a eu la solution, donc à partir de là,
il peut reprendre sa vie de façon normale. De ce drame qu'il a été obligé de subir alors qu'il était adolescent. Et il s'en sort tellement bien que finalement, le roman se termine comme il a commencé, c'est-à-dire avec beaucoup de légèreté et même d'humour. Et notre dragon, donc après avoir vécu des moments terribles dont on faisait allusion tout à l'heure avec cette lecture, et eh bien finalement il sort extrêmement vainqueur, victorieux des situations dures qu'il a traversées. Et ça se termine avec beaucoup d'humour et de satisfaction. Alors pour ça, effectivement, il faut accepter d'aller au bout, de traverser ce mouvement terrible où l'adolescent dragon subit les pires violences contre lui, mais il en sort justement vainqueur. Et ça, c'est un roman de très très grande humanité.
Eh bien, le roman en question, c'est La Houlette de Camille Hatimi aux éditions Elizade. Une pause musicale, vous avez D'accord. prévu ça, Monique?
Alors, ça va paraître un peu incongru par rapport à ce qu'on a écouté
à l'instant,
sauf que quand je vais parler du deuxième roman, on comprendra pourquoi j'ai fait ce choix.
Les abeilles de Bourvil. Sur FM Plus 91 FM à Montpellier avec Bourvil, et oui, c'est inattendu, les abeilles. Nous sommes en train de partager, c'est encore plus inattendu, sur deux titres publiés aux éditions Elizade, deux auteurs du Maghreb. Nous avons commencé par parler de Camille Hatimi, La Houlette, une superbe présentation de Jean Daumont qui s'est pris d'enthousiasme pour cet auteur.
Absolument.
Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Monique Serrault-Chaïbi pour L'Amas Ardent, publié...
Toujours chez Elizade,
un livre de Yamen Manaï. Alors Monique, Les abeilles, c'est pas par hasard de Bourvil?
Non, c'était pas du tout par hasard.
Pas du tout.
Le livre parle... Déjà, la couverture du livre, comme on peut le voir, ce sont des alvéoles en fond, et puis un homme de dos, sur l'épaule duquel est une abeille. Donc, L'Amas Ardent, L'AMAS.
Oui, c'est vrai, il faut le préciser.
Voilà, Amas. C'est une technique que les abeilles japonaises, une famille d'abeilles japonaises, a pour se débarrasser des frelons. Elles entourent, tout un essaim entoure le frelon de... le frelon, et elles se mettent à battre des ailes pour faire monter la température. Et le frelon ne supporte pas une température supérieure à 45 degrés, alors alors que les abeilles peuvent aller jusqu'à 48 degrés. Mmh. Donc, c'est une sorte d'allégorie qu'a choisi Yamen. Ça veut dire qu'ensemble, quand il y a une solidarité, on peut arriver à se débarrasser de tout ce qui est violence ou haine, etc. Parce que le frelon n'importe que du mal, sa piqûre peut être mortelle, il peut donc détruire des ruches qui nous sont absolument indispensables, alors que l'abeille, eh bien, il y a une reine qui est nourrie par ses mmh. abeilles, qui sont toutes à peu près au même rang mmh. et qui ne peuvent réussir à nous donner du miel, du pollen, etc., que grâce justement à cette solidarité.
J'imagine que Yamen Manai en fait une métaphore de cette histoire
alors,
de ruche.
Yamen, c'est son troisième roman, mais il a toujours choisi le mode de la fable pour ses pensées. Enfin, bon. Le premier livre qu'il avait écrit, La marche de l'incertitude, est un très joli livre où il parle beaucoup de hasard. Bon, il y a un couple qui s'est perdu de vue, qui se retrouve après 11 ans. Il y a des tas de personnages qui s'entrecroisent. Il y a la ville de Sidi Bou Saïd et celle de Paris également qui s'entrecroisent. C'est un livre qui est assez joli, qui parle du hasard, qui parle de l'amour, qui parle de tas de choses.
Ça, c'était le premier. Voilà. C'était son premier.
Et donc, c'est celui qui a eu le prix de notre coup de cœur lycéen, parce qu'à l'époque, on faisait un coup de cœur lycéen. Son second livre s'appelle La Sérénade d'Ibrahim Santos. On sent qu'il est très influencé par les écrivains sud-américains et éventuellement Sepúlveda. Et donc, c'est encore une fable. Il y a un village irréductible dans une espèce d'île qui l'idée lui est venue à Cuba. Ce village irréductible fabrique un rhum qui est au-dessus de tous les rhums, qui est vraiment extraordinaire. Et c'est un village donc, qui est autosuffisant. Et puis, un beau jour, le dictateur goûte de ce rhum et vient. Et du coup, l'écologie s'en ressort atteinte. Donc, c'est toute la lutte de ce village pour se débarrasser de la modernité, de la dictature, etc. Et l'amas ardent, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque j'expliquais comment les abeilles se débarrassaient des frelons. Et il y a un double message dans ce roman, puisque le jour où un bateau arrive avec les frelons qui sont apportés, les frelons sont apportés par des barbus, des islamistes, donc... Il n'y a pas de pays précis, on peut penser que c'est la Tunisie, que c'est l'Égypte et tout. Donc il y a ce parallèle entre ces barbus qui viennent évangéliser dans un sens très négatif la population. Et alors il y a un personnage principal qui s'appelle Don, qui est un apiculteur, qui est amoureux fou de ses abeilles, qui les bichonne, et puis qui un beau jour s'aperçoit qu'elles sont totalement massacrées par des frelons. Et donc, il envoie quelqu'un donc, au Japon pour essayer de récupérer des abeilles de cette espèce tueuse de frelons. C'est écrit avec humour, mais c'est aussi très profond, parce que, justement, il se sert de la fable, du conte, de la légèreté, pour nous amener sur des sujets qui sont beaucoup plus profonds. D'ailleurs, il y a une
humain aussi, certainement.
Beaucoup plus humain, et où à chaque fois, dans le livre précédent, comme dans celui-là, où on sent que la solidarité peut sauver les humains et la planète. Donc, il a eu le prix des 5 continents avec ce roman, à l'unanimité. Le Clésio a parlé de ce roman avec beaucoup, beaucoup de chaleur. Donc, c'est un livre qui se lit comme un polar. C'est vraiment un livre qu'on ne quitte pas quand on l'a commencé. On ne quitte pas. C'est très drôle. Ça commence sur un bateau avec des représentants de pays d'Arabie Saoudite qui font des excès, parce que bien sûr il y a le côté de l'Arabie où tout est interdit et tout, mais quand ils sont en dehors de leur pays, il y a beaucoup de princes et autres qui vont faire des folies au Maroc ou ailleurs et qui ont une conduite qui n'est pas du tout conforme à ce qui est écrit dans le Coran. Donc, c'est un livre qui est très, très agréable à lire, qui est très intéressant.
Vous avez prévu de lire un court
extrait ? Alors, je vais pouvoir lire.
Vous pouvez nous dire, c'est agréable à lire, on aimerait bien en goûter de ce roman,
alors,
Monique.
Alors, je vais lire, moi c'est pareil, enfin c'est aussi vers le milieu, c'est la page 115. Depuis qu'il avait découvert la nouvelle dégaine de ses habitants, le Don, c'est l'apiculteur, descendait au village encore moins souvent que d'habitude. La journée, il se concentrait sur ses nouvelles reines et le soir, il se demandait s'il ne fallait pas partir encore une fois, loin des tuniques, des barbes et des voiles. Mais la découverte macabre de ce matin de mars relégua ses souvenirs et son mal-être au second plan. Une colonie entière dévastée, le miel dérobé en un temps record. Qu'était-il arrivé pendant son absence ? Le temps d'un aller-retour à la source n'aurait suffi à aucun prédateur connu pour perpétuer une telle œuvre destructrice. Il avait passé la journée à examiner les environs pour au final ne relever aucun indice. Il était même redescendu à Nawa boire un café chez Louz afin de sonder les villageois. S'ils étaient au courant grâce au petit Béchir, ils n'avaient que leur compassion à offrir. Aucune piste ni témoignage ne pouvait l'aider à résoudre le mystère. La nuit et jusqu'au petit jour, il ressassa l'abominable scène, 30 000 abeilles lacérées au pied de leur ruche, un massacre massif et chirurgical à la fois, qui l'avait sidéré. À quoi donc la mort avait-elle octroyé autant de pouvoir ?
Merci Monique Serochaïbi. Écoutez, c'est avec grand plaisir que nous avons organisé cette émission autour de deux auteurs maghrébins, Yamène Manaï pour Lama Ardent aux éditions Elisade, dont on vient lire quelques extraits. Et juste avant, première partie, c'était l'intervention de Jean Daumont sur un roman de Camille Hatimi, La Houlette, aux éditions Elisade. Merci Jean Daumont et merci Monique Serochaïbi.
Mais de rien et bonne fin de journée.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.